Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Écriture sainte est, comme vous le savez, de ce genre de lecture, de ce genre de texte que l'on qualifie régulièrement de millefeuille. C'est-à-dire qu'elle est tellement dense, cette parole même de Dieu, que chacun de ces passages souffre plusieurs interprétations possibles. Il ne faut négliger aucune de ces interprétations parce que chacune d'entre elles est voulue par le Saint-Esprit et parce que chacune d'entre elles nous offre une nourriture spirituelle. Voyez ? Mais cependant, quoi qu'il faille tenir chacun de ces sens de l'Écriture, comme la tradition les appelle, il faut hiérarchiser ces différentes interprétations. Il y en a toujours une qui doit primer sur les autres, une dont le sens est plus profond et qui doit retenir finalement notre attention. Dans le texte d'aujourd'hui, on peut s'arrêter d'abord au sens littéral et considérer le récit que nous livre Saint Jean que comme celui d'un miracle très touchant, voilà, mais qui finalement n'a pas tant d'importance que cela. Au cours d'un banquet de mariage, le vin vient à manquer et la Vierge Marie, femme très prévenante, mère juive s'il y en est, demande à son fils de pallier la carence en vin, grâce à quoi ? Ben, grâce à ses pouvoirs divins. Elle sait que son fils est le fils du Très-Haut, ça tombe bien, elle veut faire plaisir aux époux et aux invités, et Jésus finalement s'exécute après une étrange remarque, hein, « Femme, comme veux-tu » qui a fait couler beaucoup d'encre, et les convives jouissent, à la fin de ce récit, d'un surcroît de nectar de qualité extraordinaire pour finir en beauté les agapes qu'ils ont commencées en présence de Marie et de Jésus. Alors cette première lecture, elle offre à notre méditation de très belles perles. Il ne faut pas l'écarter d'emblée. On y apprend par exemple que Marie est une femme délicate entre toutes et on voit jusqu'où la délicatesse de cette mère va pour ses enfants. Loin d'être une bigote compassée comme on en voit un peu trop dans les églises et chapelles catholiques, qui ne se soucie pas des détails pratiques au motif que, bien, il s'agit que de matériel, vous comprenez. Hein, et finalement, l'essentiel est ailleurs. Et puis, de toute façon, ces hommes ont trop bu. C'est pas du tout comme ça que la Vierge Marie envisage les choses. Marie met tout son cœur à ce que la fête batte son plein. Et les mariages juifs, ça dure une semaine. C'est l'octave. Marie veut que la joie des invités et que la joie des époux soit assurée par quoi ? Par une chose très simple, très matérielle, qui est le vin. Ici, il transparaît, vous voyez, quelque chose d'extraordinaire de la matérialité divine. Vraiment, ce soin que Marie apporte dans chacun des détails de nos existences. Vous voyez, ces prévenances qui vont jusqu'à prendre en compte le moindre détail pratique. Ainsi, on peut en conclure que jamais nous n'importunerons notre Mère du Ciel en lui demandant des choses très terre-à-terre. Rien, aux yeux de Marie, rien n'est trop futile. Ça, c'est quelque chose que parfois nous avons du mal à percevoir. Nous n'osons déranger la Vierge Marie, si j'ose dire, que pour des choses fondamentales. Mais non, il faut oser appeler Marie à la rescousse pour des choses très simples. Voyez. Et du reste, ici, elle agit motu proprio, elle agit d'elle-même. On ne lui a rien demandé, personne ne lui a parlé du manque de vin, et elle s'avance vers son fils pour des considérations matérielles en plus, et lui demande de remédier à ses problèmes. Alors imaginez quand nous sollicitons la Vierge Marie et qu'en plus nous la sollicitons avec des supplications respectueuses et pour des choses très importantes, imaginez que la Vierge Marie n'attend pas pour demander à son fils d'intervenir. Vous voyez que cette lecture très terre-à-terre du texte nous permet déjà d'apprendre de très belles choses sur Marie et de très belles choses sur notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ apparaît ici plus qu'ailleurs peut-être très incarné. Jésus vient de choisir ses apôtres. Jésus vient d'inaugurer sa vie publique. Et néanmoins, il ne se dit pas qu'il aurait mieux à faire ailleurs, qu'une mission autrement plus importante l'attend. Non, il vient passer un jour, deux jours, trois jours peut-être, à côté de ces personnes qu'il aime avoir mariées. Jésus aime passer du temps et passer du bon temps avec ses amis. Vous voyez ? Et en plus, il offre à ses époux quelque chose qui sans doute ne figurait pas sur la liste de mariage. 600 litres du vin le meilleur qui ne se soit jamais fait sur terre. Vous voyez que Jésus ne lésine pas et qu'il est vraiment le Dieu incarné par excellence. Hein. Et ses détracteurs ont fait, peut-être pour ce motif-là, de Cana, ont fait de lui un glouton. Hein, vantant Saint Jean-Baptiste par contraste, il faisait de Jésus un glouton. Mais qu'importe. Au moins, Jésus se montre-t-il très proche de nos préoccupations lui aussi. Il n'y a pas que sa mère qui soit proche de nos préoccupations, il y a lui, le Fils éternel du Père, qui vient nous joindre dans eh bien, nos petites affaires quotidiennes et qui ne néglige pas de participer au quotidien de nos vies avec ses joies et ses peines. Mais cependant, mes frères, nous sentons bien que cette lecture terre-à-terre de l'Évangile ne suffit pas, que saint Jean semble avoir quelque chose de plus à nous enseigner. Et c'est là que je veux en venir, je vais essayer d'être bref. L'évangéliste ne veut pas que nous nous cantonnions dans le petit récit d'une histoire très jolie, mais finalement assez mignonne, mignonnette, c'est-à-dire un peu simplette en réalité. Il ne veut pas de cela. Il ne veut pas, et cela se perçoit à travers certains éléments de ce texte, certaines anomalies d'abord, qui nous montrent que saint Jean n'entend pas faire un récit chronologique de ce qui s'est passé exactement. Pas du tout. Saint Jean n'est pas un journaliste. Saint Jean, ce n'est pas le match, ou c'est pas Voici, ou je ne sais quel autre journal People qui vient faire un récit d'un mariage un peu en vue. Pas du tout. Saint Jean a glissé des anomalies délibérément pour nous arracher à cette simple lecture terre à terre de l'événement. Ces anomalies, quelles sont-elles? Mais les époux ne sont même pas nommés. Un mariage, normalement, quel est le point focal du mariage? Les époux. Or ici, ils n'apparaissent même pas, ils sont au clou de la journée et on ne nous donne même pas le nom de ces gens-là. Le dialogue entre Marie et son fils est très étrange, il est totalement décousu. C'est un dialogue délibérément arrangé par saint Jean. Ce ne sont pas les paroles telles qu'elles ont dû sortir de la bouche de la Vierge Marie ou de la bouche de Jésus. Vous voyez, il y a des éléments anodins qui sont au contraire surdimensionnés. On se moque de savoir que l'eau que Jésus va transformer vient de jarres qui servent aux purifications. On se moque de savoir la quantité exacte de vin qui va être transformé, enfin qui va être produit. On se moque de savoir qu'il faut passer par la médiation des serviteurs pour que le miracle puisse s'accomplir. Tout ça, ce sont des détails qui n'auraient pas lieu d'être, normalement, si saint Jean avait entendu faire le simple récit des événements tels qu'ils avaient eu lieu. Vous voyez, on a l'impression d'une mise en scène très symbolique de la part de saint Jean. Le mot est lâché. Symbolique. Voilà ce à quoi saint Jean veut en venir, le regard d'aigle. Saint Jean va plus profondément que dans les événements tels qu'ils ont existé, et si beau soit-il. Vous voyez, j'en veux pour preuve, cette lecture symbolique qu'il faut avoir de l'évangile de saint Jean, l'expression qu'il emploie, ce fut là le premier des signes que Jésus accomplit. C'est à la fin du passage d'aujourd'hui, le premier des signes. Il faut entrer dans un regard symbolique, dans un regard théologique sur cet évangile de Cana. Le signe, vous le savez, dans le vocabulaire de saint Jean, ça n'est pas un signe anodin, ça désigne un miracle. Mais pas n'importe quel miracle. Un miracle important. Un miracle qui nous renvoie à une réalité profonde, qui nous renvoie à un mystère éminent de la révélation, qui signifie, voilà pourquoi le terme de signe, une réalité divine qui est cachée derrière cet événement. Vous voyez, si dans le récit, j'essaye de passer un certain nombre de considérations qui avaient été faites pour vraisemblablement un sermon d'été, j'aurais dû penser qu'ici il ferait un froid de canard. Voilà, donc je taille dans le texte, mais il me faut sélectionner, vous voyez, faire un best-of de ce que je voulais vous dire dans ce sermon. Voilà, dans son commentaire de saint Jean, de l'évangile de saint Jean, saint Augustin relève deux catégories de miracles. Il y a des miracles qui ne renvoient à rien du tout. Il y a des miracles qui n'ont pour autre utilité que de servir les personnes qui sont autour de Jésus. Vous voyez, et il y a des miracles qui sont des miracles au sens strict, qui ont pour mission de signifier quelque chose de profond. La guérison du lépreux, bien sûr, au-delà de la guérison physique qu'elle permet au lépreux, qui est très importante, signifie que Jésus vient nous purifier de nos péchés. La guérison de l'aveugle-né, au-delà de l'événement qui a dû plaire évidemment à ce pauvre homme qui a recouvré la vue, nous avons la signification de cette lumière de la foi que Jésus vient offrir à notre pauvre nature blessée par le péché et devenue myope par l'occasion. La transformation de l'eau en vin à Cana signifie quelque chose de profond. Que signifie justement de très profond ce miracle de Cana? C'est là que je veux en venir. Il s'agit tout simplement de la plénitude de l'économie du salut. Cana est le premier des signes, nous dit saint Jean. Ça n'est pas à comprendre seulement comme le premier dans l'ordre chronologique. À la rigueur, on s'en moque, que ce soit le premier ou le dernier des signes, peu importe. Premier proto-signe dans le langage de Saint Jean, ça veut dire premier dans l'ordre d'importance. Cana est le miracle par excellence. Il est le prototype des miracles et il dépasse en envergure tous les autres miracles. Pourquoi ? Parce que dans ce miracle en question, on n'a pas simplement la signification de telle ou telle parcelle, de tel ou tel élément du salut qu'offre Jésus-Christ. Quand on a cet aveugle à qui l'on donne la vue, il s'agit de Jésus en tant que lumière qui vient nous annoncer la vérité. Quand on a la guérison du lépreux, on a la seule dimension du salut comme purification du péché. Tout cela, ce sont des visions parcellaires, des visions incomplètes de la mission que Jésus est venu accomplir. Dans le miracle de Cana, nous avons la plénitude de la mission de Jésus qui apparaît. Plénitude, parce que c'est toute la surabondance de l'œuvre divine du rachat qui apparaît. La surabondance, les cruches sont pleines, 600 litres de vin, mais Jésus ne lésine pas, pas plus que le Père éternel ne lésine quand il nous offre le salut. Nous avons dans le miracle de Cana la parfaite gratuité de Dieu dans le don de la vie divine. Vous voyez, le lépreux, l'aveugle-né, la femme hémorroïde sollicitent Jésus, demande à Jésus quelque chose. À Cana, personne, sinon sa mère, ne demande, mais certainement pas les époux, ni l'intendant du festin, personne ne demande. C'est Jésus qui, spontanément, même si sa mère le lui demande encore, spontanément vient porter secours à ces gens, comme pour nous montrer, de manière symbolique, que le Père éternel vient à notre secours de manière unilatérale, sans que nous ayons sollicité cette aide. Vous voyez, ce que Cana nous fait percevoir du miracle, du mystère du salut est autrement plus profond. Ce qui éclate à Cana également, c'est le caractère nuptial du salut. Nous ne sommes pas faits pour être des esclaves d'un Dieu très haut et tout puissant, un peu à la manière dont le concevait l'Ancien Testament, encore qu'il faille apporter des nuances à cette présentation des choses. Nous sommes faits pour être des époux, des épouses de l'époux. Vous voyez, ce miracle a lieu à Cana au cours d'un mariage, mais ce n'est pas anodin. Le Seigneur veut nous faire comprendre que le salut qu'il nous offre, nous avons à en vivre comme des petites épouses, comme ces vierges avec leurs lampes allumées qui attendent que l'époux entre dans le salle du festin. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, et on voit là éclater une perspective absolument essentielle de ce salut qu'offre Jésus-Christ, le caractère nuptial, encore une fois. Nous devons être comme les épouses qui, à la fin de l'Apocalypse de Saint Jean, s'écrient « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Vous voyez, nous avons encore, et je termine par là décidément, parce que j'aime terminer avec la Vierge Marie. La Vierge Marie est ici à Cana, dans une place absolument fondamentale, qu'elle n'a pas dans les autres miracles. Marie n'apparaît pas dans les autres miracles. Dans ce miracle en question à Cana, elle apparaît comme médiatrice. C'est elle qui est la femme par excellence, la médiatrice dans l'ordre de l'amour. C'est elle qui demande à Jésus de dispenser enfin ses miracles, mais surtout le don de sa grâce. C'est elle qui va jusqu'à oser hâter l'heure de son fils, parce qu'enfin, c'est ce qui se passe. Jésus lui dit « mon heure n'est pas encore venue » et aussitôt ensuite, en réalité, il obéit à sa mère. Vous voyez que la place laissée à la créature dans l'économie du salut éclate ici dans la figure de la Vierge Marie. Vous voyez, nous sommes à quelques semaines seulement de la naissance de Jésus, nous avons encore la crèche dans notre chapelle, et cette lumière de Noël qui continue toujours et encore à se diffuser par cercles concentriques, vous voyez, passant par l'épiphanie, c'est-à-dire cette manifestation aux yeux des mages, puis ensuite par, au fil des années, par la présentation de l'enfant Jésus au temple, où éclate quelque chose de sa divinité, puisque Siméon reconnaît en lui le Fils du Très-Haut, le Sauveur des peuples. On a ensuite le recouvrement de l'enfant Jésus, où Jésus montre qu'il n'est pas d'abord le fils de Joseph et le fils de sa maman, la Vierge Marie, mais qu'il est le fils du Très-Haut. Nous avons ensuite le baptême de Jésus, où rien moins que la voix céleste éternelle du Père et le Saint-Esprit apparaissent pour témoigner que Jésus est bien le Fils éternel. Et nous avons ici Cana, plénitude de la révélation, avant même que Jésus se soit offert pour notre salut, déjà apparaissent, je vous l'ai dit, les caractéristiques qui n'apparaîtront dans aucun autre miracle. La surabondance, la parfaite gratuité du salut le caractère nuptial du salut que nous offre Jésus-Christ et la place capitale de Marie médiatrice. Vous voyez que vous avez de quoi, avec, en dépit de peut-être le cerveau un peu ankylosé par le froid, vous avez de quoi méditer pendant cette semaine grâce à cet évangile de Cana que nous propose l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.